Nous voici en cette 16e rencontre du catéchisme pour adultes. Voilà trois séances sur lesquelles j'ai bien insisté, sur cet ordo dans lequel Dieu a pour nous un ordre naturel avec la finalité de l'ordre naturel et l'ordre surnaturel avec une finalité surnaturelle. La finalité de la vie commune, du point de vue de la nature, c'est cette félicité. On recherche le bien commun, un bonheur qui est commun à l'ensemble des gens qui vivent dans tel pays, dans telle nation. Puis, une autre fin, une fin qui dépasse les capacités de notre nature, qui est cette fin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu veut faire de nous des fils, il veut nous adopter. Il nous promet la béatitude, cela nous ne pouvons pas acquérir le ciel à la seule force de nos bras, ni de nos mérites, il nous faut être bénéficiaires de la grâce. C'est cette vie éternelle en paradis pour laquelle Dieu nous a créés. Si nous vivons ici-bas, au sein d'une vie commune, eh bien, c'est pour que nous puissions chacun eh bien, vivre de charité, transmettre également cette charité autour de nous afin de mériter la vie éternelle en étant ouverts à cette grâce de Dieu. J'ai donc beaucoup insisté pour que nous comprenions bien cette articulation délicate d'un unique ordo, un seul ordonnancement que Dieu a voulu, qui se divise en deux parties. D'abord l'ordre inférieur, l'ordre naturel, qui est assumé par l'ordre surnaturel. Pour le dire autrement, peut-être avec saint Augustin, nous dépendons comme de deux cités. Il y a la cité des hommes auxquelles nous appartenons, mais comme nous dit saint Paul, notre cité se trouve dans les cieux, et le Seigneur Jésus nous le dit lui-même, « Cherchez le royaume de Dieu ». Et tout vous sera donné par surcroît. Donc nous appartenons, si vous voulez, à deux communautés, cette communauté nationale et puis cette autre communauté surnaturelle, nous sommes membres de l'Église. Pour pouvoir approfondir cette connaissance de Dieu, cette connaissance de la vie commune, nous allons nous mettre aujourd'hui à l'école de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin va nous donner un principe fondamental pour pouvoir comprendre l'ordre avec lequel Dieu a tout créé. Nous avons insisté en ce catéchisme pour affirmer que l'œuvre de création, elle est motivée par l'amour, il est dans la nature de l'amour de se donner, et Dieu non seulement va se donner dans les personnes trinitaires, le Père se donne au Fils, le Fils à l'Esprit Saint, etc. Mais voilà que pour se donner également dans la création, eh bien voilà que Dieu va se donner, il va créer le monde angélique, nous allons en parler aujourd'hui, et il va créer également tout le monde matériel et cet univers qui a une finalité particulière, l'homme et la femme créés à son image et à sa ressemblance. Donc tout est marqué par cet amour de Dieu, également par ce bien, il est dans la nature du bien de se communiquer. Eh bien voilà que lorsque Dieu crée, il est donc l'origine de sa créature, il en est également la fin. Pourquoi ? Parce que Dieu crée telle créature avec tel dessein, un projet particulier pour elle, et cette créature n'aura de cesse de rechercher sa fin, ce pourquoi elle est créée. Alors voilà que nous, en tant que créatures spirituelles, en tant qu'hommes et femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, je le répète, nous ne sommes pas seulement appelés à vivre du bonheur ici-bas sur la terre, mais nous sommes appelés à un bonheur éternel, la vie éternelle en paradis. Dieu veut faire de nous des fils. Lorsque Dieu va donc façonner ainsi l'univers, il va le faire avec un ordre. Nous avons parlé pour cette vie commune, notamment de la notion d'autorité, avec cette phrase de l'apôtre saint Paul, « Toute autorité vient de Dieu », que ce soit l'autorité du père de famille, l'autorité du chef de l'État, l'autorité du prêtre, l'autorité de l'instituteur, etc. Toute autorité vient de Dieu. Nous avons donc parlé de l'amour et du bien, conjugués ensemble de cette bonté de Dieu. Voilà quelle est notre origine. Nous venons de la bonté de Dieu et nous retournons à Dieu pour vivre de sa bonté. Eh bien, il y a également un principe, celui de l'ordre. Il y a un ordre dans l'univers. Dieu n'a pas créé les choses avec désordre. Au contraire, on constate que tout est parfaitement pensé. Tout est parfaitement cohérent. Alors, pour comprendre ce principe qui fait que nous allons arriver à la vie commune, pourquoi Dieu a voulu la vie commune, eh bien, je dois bien dire tout d'abord Une autre formulation de cette question, Dieu aurait-il pu faire un monde plus parfait qu'il ne l'a fait? C'est une des questions qu'on se pose dans la théologie médiévale. Et on répond, oui, Dieu aurait pu faire un monde plus parfait puisque rien n'est impossible à Dieu. D'où la question, mais alors pourquoi Dieu n'a pas fait un monde plus parfait? Pourquoi? Eh bien parce qu'il appartient à nous, ses créatures, de participer au perfectionnement du monde, au perfectionnement de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle. Dieu aurait pu, si vous voulez, nous programmer comme un informaticien programme dans tel logiciel l'exécution de tel et tel scénario. Mais dans ce cas-là, nous n'aurions pas été des créatures créées par amour de Dieu, nous n'aurions pas été non plus des créatures libres, car nous aurions été comme des marionnettes préfabriquées pour exécuter tel scénario. Il est dans la nature de l'amour de se donner, et Dieu se donne sans mesure. Et l'amour présupposant la liberté, voilà que la liberté est donc aussi une des marques de la création. Non seulement Dieu crée librement, mais nous aussi, nous avons à user de cette liberté. Une liberté bien plus difficile à vivre avec le péché originel. Et vous voyez que si Dieu nous laisse cette liberté, c'est aussi pour notre dignité de créature. Et voilà le grand principe que nous allons méditer aujourd'hui. Il nous vient d'un texte de saint Thomas d'Aquin, Rigans Montes, c'est une leçon inaugurale. Lorsque saint Thomas d'Aquin a été nommé maître en théologie, il doit faire une leçon inaugurale à l'université à Paris. Et du coup, il va faire une grande catéchèse et nous allons aujourd'hui méditer, la semaine prochaine nous méditerons davantage ce texte, mais il va d'abord méditer. Il va nous donner, pardon, un principe. Le principe est celui-ci, c'est la première phrase qui ouvre ce texte. Le roi des cieux et Seigneur a institué de toute éternité cette loi selon laquelle les dons de sa providence parviendraient aux créatures infimes par des créatures intermédiaires. Considérons tout d'abord le sujet de cette phrase. Le roi des cieux et le Seigneur. Ce ne sont pas des appellations anodines. Le bon Dieu peut être appelé le roi des cieux. Ben oui, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est ainsi que s'ouvre le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous parlons des cieux au pluriel. Nous avons même, je pense, dans le livre de l'Apocalypse, la gloire des sept cieux. C'est donc dire que le Seigneur n'a pas simplement créé le ciel que nous avons au-dessus de notre tête, il a créé les cieux, sous-entendu aussi le royaume des cieux. Donc le roi des cieux, et si Dieu est roi, c'est bien parce qu'il est à l'origine même de la création, il est tout-puissant, nous dira le credo, et on l'appelle également Seigneur. Alors nous sommes dans un texte de saint Thomas d'Aquin, nous sommes dans la période médiévale, et les seigneurs siègent dans leur château. Ils rendent la justice, ils défendent et ils gouvernent et organisent. Lorsque nous appelons Dieu le Seigneur, cela signifie que nous nous plaçons sous la seigneurie de Dieu, sous sa protection, mais également, eh bien, nous nous plaçons sous son bon ordonnancement. On ne va pas venir dire au Seigneur, ton royaume est mal organisé, je vais tout refaire. Non, parce que le Seigneur va mal le prendre. Eh bien, voilà que déjà, ce titre de Seigneur, eh bien, nous comprenons que le Seigneur exerce une seigneurie. Lorsque nous appelons le bon Dieu le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, eh bien, nous reconnaissons que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Voilà un peu pour le sujet de cette phrase. Le roi des cieux, donc pour autant dire les cieux, c'est l'ensemble de l'univers, hein, le roi des cieux et Seigneur a institué de toute éternité cette loi. Alors, quelle est donc cette loi? On a parlé de l'autorité qui a comme origine Dieu, et forcément l'autorité divine, elle arrive avec des lois. Il y a des lois. Des lois, il ne faut pas simplement entendre le corpus législatif voté par une assemblée nationale. La loi, au sens encore plus grand du terme, elle est là pour guider notre action. Lorsque le bon Dieu crée, il ne crée pas les choses dans le désordre, au contraire, il crée les choses avec un ordre bien particulier. Considérons un bref instant le mouvement des astres. Le mouvement des astres n'est pas complètement aléatoire. telle planète ne décide pas tout d'un coup, par folie, de foncer dans telle autre et de tout faire exploser. Non, il y a un ordre, des mouvements extrêmement cohérents et réguliers. La Terre, grosso modo, fait le tour d'elle-même en 24 heures, et voilà que nous faisons le tour du Soleil en environ 365 jours. Vous voyez que tout ce mouvement est extrêmement régulier. Les mouvements de la Lune, qui sont quand même moins réguliers que ce que nous pourrions connaître, mais il y a la Lune qui va gérer les différentes marées, etc. Le monde dans lequel nous vivons est un monde profondément ordonné. Je prends un autre exemple. Lorsque nous allons chez le médecin ne redécouvre pas le corps humain en chacun de ses exemplaires. S'il décide d'écouter le cœur, il ne va pas demander « Alors chez vous, le cœur, il est où ? Dans le pied droit, le pied gauche, vous, vous l'avez dans la joue. » Ça serait très amusant. Non, le médecin, il sait aussi que même s'il peut y avoir des exceptions, s'il peut y avoir des anomalies, s'il peut y avoir des maladies orphelines, grosso modo, il y a un fonctionnement commun. Donc, lorsque le bon Dieu crée, il le crée avec un ordre. C'est ce que saint Thomas d'Aquin veut nous parler ici dans cette loi dont il nous parle. Le Seigneur Dieu et Seigneur a institué de toute éternité cette loi, selon laquelle, nous dit-il, les dons de sa providence parviendraient aux créatures infimes par des créatures intermédiaires. Déjà, prenons le mot de providence. Providence signifie que Dieu pourvoit. Et pour être sauvé, nous devons confesser que Dieu est provident, que Dieu pourvoit à nos besoins. Aux besoins matériels, tout comme aux besoins spirituels. Dieu est le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de son troupeau. Tous les dons de sa providence, donc on voit, Dieu, il pourvoit. Dieu ne crée pas seulement la petite fleur, parce que la petite fleur, si vous voulez, pour vivre, elle a besoin de la terre, elle a besoin de l'eau. Vous voyez, je vous disais déjà, en tant que créature spirituelle, nous sommes des êtres en communication, nous avons le don du langage, nous dirait le pape Léon XIII, mais nous avons aussi des relations, nous sommes des êtres en relation. Mais la petite fleur elle-même, elle a besoin d'être également en relation avec le monde. Elle a besoin de terre, elle a besoin de tels minéraux dans la terre, elle a besoin d'eau, elle aura sans doute besoin, peut-être, selon la variété, du truchement des abeilles qui viennent prendre un peu le pollen pour féconder, par exemple, telle et telle plante. Donc vous voyez que même cette petite réalité, elle est inscrite dans un ordre beaucoup plus grand. Donc, de toute éternité, il y a une loi dans la création qui veut que les dons de la providence parviennent aux créatures infimes par des créatures intermédiaires. Je vais donner un premier exemple. Nous avons déjà parlé dans ce catéchisme du monde angélique. C'est la première chose, c'est ce que Dieu crée avant même le monde matériel, il va créer le monde immatériel, ce monde angélique. Et saint Thomas d'Aquin se caractérise, on l'appelle le docteur angélique, pour une bonne raison, c'est qu'il développe beaucoup la théologie des anges, car elle est très intéressante, parce qu'à bien considérer, l'homme, il est entre l'animal, puisqu'avec l'animal, il partage le fait d'avoir un corps, et avec ces créatures angéliques qui sont de purs esprits, nous avons également quelque chose qui nous distingue des seuls animaux, nous avons cette intelligence. Cette raison, pourrions-nous l'appeler, nous avons également cette âme éternelle qui nous distingue des seuls animaux. Donc nous sommes, si vous voulez, entre le monde angélique et le simple monde animal. Alors, saint Thomas d'Aquin s'interroge dans la Somme de théologie sur comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous connaissons. Je vous ai dit, si nous vivons en communauté, c'est aussi parce que dans l'homme se trouve le désir de tout connaître. Un seul homme, sur une seule génération, ne peut pas tout connaître. Le peu de connaissances qu'il aura réussi à acquérir ici-bas sur la terre, il l'aura reçu de maître, et à son tour, il devra l'enseigner. Je prends là un exemple scolaire, mais c'est également vrai pour l'artisan. L'artisan, c'est l'homme qui va se distinguer par un art, un savoir-faire, mais il aura non seulement appris d'un maître, et puis il aura à former, lui aussi, c'est dans la part des choses, il aura à former telle et telle personne, et puis il apprendra aussi les petits trucs, si vous permettez l'expression, du maître, telle chose qu'il fera mieux qu'un autre. Donc vous voyez que, déjà, nous avons cette vie commune aussi pour nous transmettre un certain nombre de choses. Donc, Comment est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que nous sommes en contact avec le monde? Eh bien, parce qu'en tant qu'homme, nous avons l'usage des cinq sens qui nous permettent d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Et puis, nous avons cette intelligence qui va faire que nous allons faire rentrer le monde extérieur en nous-mêmes dans ce qu'on peut appeler des concepts. Voilà comment un peu nous connaissons. L'homme connaît aussi parce qu'il peut expérimenter. Il va expérimenter les choses. Et il va se rendre compte que lorsqu'il fait telle et telle chose, et bien voilà que cela, le résultat se répète avec la même régularité. Voilà comment on va pouvoir avoir des choses que l'on va connaître, des choses dont on va être sûr, d'autres dont on sera moins sûr. C'est ainsi que dans le monde de la connaissance, il va y avoir par exemple les sciences exactes, les mathématiques, la physique, et puis il y aura des sciences qui seront moins exactes, qu'on appellera les sciences humaines, mais qui nous apportent également un certain nombre de réalités. Donc il y a comme ça des choses que nous connaissons. Maintenant, prenons le cas de l'ange. Comment est-ce que l'ange peut-il connaître? Il n'a pas de corps, il n'a donc pas l'usage des cinq sens, il n'a pas besoin du monde matériel, qu'en ferait-il? C'est un être purement spirituel. Comment l'ange connaît-il? Eh bien, il va connaître par une illumination divine. Mais attention, cette illumination ne va pas se faire n'importe comment. Lorsque Dieu va créer le monde angélique, il va créer le monde angélique avec une hiérarchie, de telle sorte que les grands archanges auront pour mission d'enseigner les corps intermédiaires jusqu'à informer les plus petits des anges. Et là, nous comprenons ce que saint Thomas d'Aquin veut nous dire dans ce principe qui guide toute l'œuvre de création. Le roi des cieux et seigneur a institué de toute éternité cette loi selon laquelle les dons de sa providence parviendraient aux créatures infimes, c'est-à-dire aux créatures les plus petites, par des créatures intermédiaires. Notre petit ange gardien a besoin d'avoir telle information. Eh bien, comment fait-il? Il faut d'abord que ce soit Dieu qui lui donne cette information, mais Dieu, parce qu'il est dans la... Il veut honorer également les anges et leur conférer une dignité. Les anges sont de purs esprits, ils ne sont qu'intelligence. Eh bien, voilà que Dieu va donner ses idées et que les anges, les uns les autres, vont s'illuminer les uns les autres jusqu'à ce que l'information parvienne au plus petit des anges. Voilà un peu comment fonctionne, si vous voulez, c'est grosso modo, cette intelligence angélique. L'ange ne peut pas expérimenter le monde, c'est Dieu qui va lui donner directement la connaissance du monde. Alors par exemple, à un ange très élevé, il va donner la notion de vie. Et voilà que non seulement l'ange va connaître tout ce qui est vivant, il va le connaître dans la multitude, mais il va aussi connaître chacun en particulier. Admettons, Dieu donne la connaissance du monde animal à tel ange. Non seulement l'ange connaît tout ce qui fait que tel animal est un animal, mais il va connaître également tous les animaux. Il va connaître tous les chats, tous les chiens, celui qui est ici, celui qui est là, il les connaît tous, en particulier. Voilà comment fonctionne cette connaissance angélique. Et les anges les plus élevés, finalement, sont des anges beaucoup plus simples, au sens où ils ont beaucoup moins d'informations qui leur a été données. Pourquoi? Parce que leur idée est beaucoup plus générale. En ayant ainsi la notion de vie, vous avez la notion de tout ce qui est vivant, vous avez beaucoup de choses. Si l'ange n'a la connaissance que du monde canin, des chiens, il va manquer quelque chose. Voilà un peu comment cela fonctionne. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons déjà dans le monde angélique comment il est dans la dignité des grands anges d'enseigner les anges inférieurs. Si nous vivons dans le monde et si nous vivons en communauté, il y a aussi en notre monde une hiérarchie. Alors quand on dit hiérarchie, on va penser chef de l'État, les différents ministres, etc. Oui, ce n'est pas faux. Il y a une hiérarchie. Mais finalement, à bien y réfléchir, il y a toujours une hiérarchie. Une hiérarchie dans la famille, le père et la mère de famille, qui ont une position d'autorité vis-à-vis des enfants. Ce ne sont pas les enfants qui vont commander à la maison, c'est le père de famille, assisté en cela de la mère de famille. Nous vivons dans un monde où l'enfant est roi. Il est peut-être bon des fois de rappeler un certain nombre de principes. Les parents sont là pour éduquer leur enfant, mieux encore, pour les élever des réalités de cette terre jusqu'à la gloire du ciel. Il y a donc une autorité, une hiérarchie. Lorsque l'enfant ira à l'école, que va-t-il se passer? C'est pareil, un maître va enseigner un certain nombre de choses aux enfants, et puis ces enfants vont grandir, donc non seulement ils auront acquéri ces différentes connaissances et puis ils auront également non seulement leur utilité dans leur vie quotidienne et puis ils pourront également eux aussi transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc voilà ce grand principe que nous dit saint Thomas d'Aquin et que je relis. Le roi des cieux et seigneur a institué de toute éternité cette loi selon laquelle les dons de sa providence parviendraient aux créatures infimes par des créatures intermédiaires. C'est une doctrine profondément catholique. Dieu passe toujours par des médiations. Nous avons des exemples saisissants dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand Dieu veut se communiquer, vous me direz, Dieu lui-même aurait pu se déplacer pour aller visiter la Sainte Vierge au jour de son annonciation et lui parler directement. Non, Dieu a envoyé un ange. Angelos, ça signifie l'envoyé. Il est envoyé de la part de Dieu. C'est pas que Dieu n'a pas voulu se déplacer en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette Vierge Immaculée ? Je vais quand même pas me déplacer moi-même en personne. » Il n'y a absolument pas ça en Dieu. Mais imaginez la dignité qui est accordée à l'archange Gabriel d'être ainsi le messager de Dieu. Voyez comment Dieu veut passer. Il veut passer par des intermédiaires. Et cela, nous le voyons dans toutes les réalités de notre existence. Pour arriver à se poser un certain nombre de questions sur Dieu, voilà, je me pose des questions. Mais saint Thomas d'Aquin est très confiant en disant « Dieu pourvoit ». Si quelqu'un se pose des questions, il enverra forcément la bonne personne pour les aider à tel moment. Hein? C'est vraiment cette confiance que nous avons en Dieu. Dieu est provident, il pourvoit à nos besoins, hein? Mais nous pouvons aussi être envoyés, nous pouvons être des intermédiaires sur ces différents chemins. Et alors là, nous comprenons aussi que notre dignité de créature est respectée. On n'est pas simplement telle et telle créature créée pour exécuter tel scénario, non. Nous avons aussi une liberté. Une liberté d'action. Donc Dieu passe toujours pour instruire les plus petits par des plus grands. Cela explique une chose. Je vous posais tout à l'heure la question de médiévale, celle « Dieu aurait-il pu faire un monde plus parfait ?» Alors oui, il aurait pu faire un monde plus parfait. Le monde est à perfectionner parce qu'il nous a donné aussi cette intelligence, cette connaissance dans le temps long de toute l'histoire humaine qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2022, nous avons un certain nombre de connaissances que n'avaient pas nos différents pères et nos différents parents. Donc du coup, eh bien voilà que nous avons non seulement à bénéficier de cela, mais nous avons aussi à les transmettre. Prenons une problématique peut-être encore plus actuelle. On se rend compte, un peu naïvement aujourd'hui, après la société de consommation, on se rend compte que finalement, l'agriculture, les produits ne sont pas bons comme avant, on y rajoute telle et telle chose dedans, des conservateurs, des ci, des ça. On se rend compte finalement que on s'est beaucoup servi de cette œuvre de création qui nous était donnée, dont nous étions censés être des gérants, et que du coup, on est en train de gravement détériorer le monde. Vous voyez la prise de conscience qu'il faut pour se dire, attention, il va falloir faire attention à ce que Dieu nous a donné. Dieu pourvoit à chacun de nos besoins, et nous avons chacun une responsabilité. L'autorité dont nous sommes investis doit être aussi au service du bien commun. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas d'égalité. Entre telle et telle et telle personne, même au sein d'une même famille, certains auront beaucoup de dons et d'autres en auront beaucoup moins. Certains seront très éloquents, d'autres auront une très bonne mémoire, d'autres auront une intelligence sur les choses vraiment très pratiques, d'autres très conceptuelles, d'autres plus poètes, d'autres... Il faut de tout pour faire au monde, disons-nous, mais c'est aussi comme cela que le bon Dieu l'a voulu. Je vous l'ai déjà dit dans des catéchèses, l'individu n'existe pas, donc on ne vit pas que pour sa pomme. Ce que Dieu nous donne, nous avons à le mettre au service du bien commun. C'est également l'exemple de ce principe. Il plaît au bon Dieu d'aller rejoindre les créatures les plus infimes par l'intermédiaire de créatures d'intelligence supérieure dans tel et tel domaine. Nous avons parlé des chats et nous les entendons, c'est merveilleux. Donc voilà ce premier principe. Que va faire saint Thomas d'Aquin dans cette catéchèse Rigans Montes que nous approfondirons la semaine prochaine? Saint Thomas a réfléchi comment est-ce que je vais ouvrir pour la première fois l'année universitaire. Donc il nous a posé ce principe. Le roi des cieux et seigneur a institué de toute éternité cette loi selon laquelle les dons de sa providence parviendraient aux créatures infimes par des créatures intermédiaires, et il ne va avoir de cesse d'illustrer cela. Lui est maintenant un docteur, il a pour mission d'enseigner qu'on appelle la doctrina sacra, la sainte doctrine, à ses élèves. Et qu'est-ce qu'il va faire, saint Thomas d'Aquin? Il va commenter dans cette dans cette catéchèse, un tout petit verset dont il va faire son miel de façon admirable. Nous sommes au psaume 103 et saint Thomas d'Aquin va commenter ce petit verset. « Du haut du ciel, vous faites pleuvoir sur les montagnes, vous veillez à ce que la terre ait assez d'eau. » Du haut du ciel, le Seigneur fait donc passer la pluie, notamment sur les montagnes, nous dit ce petit verset. « Vous veillez à ce que la terre ait assez d'eau. » Eh bien, sur ce petit verset, saint Thomas va illustrer ce principe en nous disant, ben voilà, regardez quand il pleut. Ben voilà que la pluie va arroser la terre. Et saint Thomas dira bien à un moment donné, attention, arroser la terre, c'est pas que l'eau dévale complètement. Non, Dieu arrose avec délicatesse la terre. Que fait cette terre? Ben cette terre, elle va se gorger d'eau. Elle va alimenter les nappes phréatiques, elle va devenir des fleuves, elle va devenir des rivières, elle va venir irriguer la plaine. Eh bien voilà. De même, va nous dire saint Thomas, le docteur, il est donc sur cette haute montagne, il reçoit la connaissance divine, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas la garder pour lui dans cette montagne, non. Il va justement arroser la terre, c'est-à-dire qu'il y a le rôle des docteurs, donc vous voyez, c'est un rôle supérieur, et puis il va aller enseigner ses élèves en théologie, qui chacun seront par exemple envoyés dans différentes paroisses et auront à instruire le peuple de Dieu. Il y a un ordre, il y a une hiérarchie, et cela est un principe chez saint Thomas. Je vous ai parlé de la connaissance angélique, du fait que les anges s'illuminent les uns les autres, mais saint Thomas nous dit, attention, nous aussi, dans le monde de la connaissance, les gens les plus instruits sont là pour donner des conseils, et puis sont là aussi, non pas pour garder jalousement le savoir en disant, ça serait une gnose, moi j'ai la connaissance, le salut ne viendra que par la connaissance. Eh bien non, j'ai pour mission, moi aussi, de transmettre ce que j'ai reçu. Et le Seigneur Jésus ne cesse, dans ses paraboles, notamment celle des talents, de nous dire, voilà, vous avez reçu des talents, il ne faut pas simplement l'enterrer, il faut au contraire que ces talents portent du fruit. Si Dieu veut qu'il y ait vie commune ici-bas sur la terre, c'est pour qu'il y ait véritablement cette vie, cette vie commune qui fait que chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et que les supérieurs puissent enseigner les inférieurs. Je vous lis un petit peu ce psaume 103, qui est un psaume, si vous voulez, qui nous parle un peu de la création. Je le lis en entier et nous arrêterons la catéchèse cette semaine à ce sujet. Je veux dire merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, vous êtes infiniment grand. Vous habillez de splendeur et de majesté. De splendeur et de majesté, vous enveloppez d'un manteau de lumière. Vous avez déployé le ciel comme une tente. Vous avez placé votre demeure encore plus haut. Oui, saint Thomas d'Aquin nous parlait du roi des cieux. Votre demeure encore plus haut. Les nuages vous servent de char. Vous vous déplacez sur les ailes du vent. Vous prenez les vents comme messagers. Le feu est à votre service. Vous avez fixé la terre sur ses bases. Pas de danger qu'elle en bouge désormais. Vous l'avez couverte de l'océan comme d'un manteau, les eaux montées jusqu'au sommet des montagnes. Mais vous les menaçâtes, elles s'enfuirent. Au bruit de votre tonnerre, elles prirent la fuite, grimpant sur les sommets, descendant les vallées jusqu'à la place que vous leur avez fixée. Voyez, le psalmiste nous dit bien que toute chose a sa place et que tout est cohérent dans l'œuvre de création. Vous leur traçâtes une limite à ne pas franchir à ces eaux, pour qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. Vous conduisez l'eau des sources dans les ruisseaux. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux peuvent venir y boire. Et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Et voilà le verset que va commenter saint Thomas d'Aquin. Du haut du ciel, vous faites pleuvoir sur les montagnes. Vous veillez à ce que la terre ait assez d'eau. C'est vous qui fîtes pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Voyez, là, vraiment, le psalmiste, il n'oublie rien dans l'œuvre de création. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la petite fleur. Pour qu'il y ait une petite fleur, la petite graine, il faut qu'elle ait la bonne température. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour que la petite graine puisse germer et se développer. Et là, c'est un peu tout ce que rend grâce. Je veux vous dire merci, je veux dire merci au Seigneur. C'est se rendre grâce pour l'œuvre de création. Et voyez que le psalmiste constate non seulement que toute la création est en relation, mais également qu'il y a un ordre. Même les plus grands arbres ont l'eau qu'il leur faut. Les cèdres du Liban, plantés par vous, Seigneur, les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers servent de refuge aux damans. Vous avez fait la lune pour fixer les dates, et le soleil, qui sait l'heure de son coucher. Alors même si notre astronomie serait un peu différente aujourd'hui, on comprend bien quand même qu'on sait vous dire hein, à la météo chaque jour à quelle heure se couchera le soleil. Donc c'est qu'il y a vraiment une régularité. Vous envoyez l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament de toi leur nourriture. Vous voyez, même se dire le cri des animaux, mais pourquoi les animaux crient-ils, à qui parlent-ils ? Voilà, là, le psalmiste nous dit, les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament de vous leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent, ils vont se coucher dans leur tanière. Vous voyez qu'il y a une grande régularité dans la création. L'homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner jusqu'au soir. Seigneur, quelle est vaste votre activité, avec quel art vous avez tout fait. La terre est remplie de ce que vous avez créé. Voici la mer, immense, à perte de vue. Tant d'êtres s'y meuvent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Des navires la parcourent en tous sens, et aussi le monstre marin, le Léviathan. Ça, je pense que c'est l'image, si vous voulez, des grosses baleines qui a toujours impressionné par leur taille, hein, et Léviathan que vous fîtes pour jouer avec lui, ou pour qu'il serve à vos jeux. Tous ces êtres dépendent de vous pour recevoir leur nourriture au bon moment, que nous a dit saint Thomas d'Aquin. Dieu est provident, et les dons de sa providence parviennent aux créatures infimes par des créatures intermédiaires. C'est bien ce qu'illustre aussi ce psaume. Tous ces êtres dépendent de vous pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si vous la leur donnez, ils la prennent. Si vous ouvrez la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si vous refusez, les voilà terrifiés. Si vous leur reprenez le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Vous leur rendez le souffle, les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. Que votre gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouissez-vous de ce que vous avez fait. Vous regardez la terre et la voilà qui tremble. Vous touchez du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Pour bien montrer hein, que Dieu est le roi des cieux, hein, tout lui appartient. Que mon poème vous plaise, Seigneur. Moi, je suis si heureux de vous avoir comme Dieu. Ceux qui se détournent de vous doivent disparaître de la terre. Soyons clairs. Qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux vous dire merci, Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Voilà ce beau psaume 103, 104, 104, 103. On ne sait jamais comment compter avec toutes ces querelles d'église. Mais enfin, hein, nous voilà comment saint Thomas d'Aquin, de ce petit verset 13, « Du haut du ciel, vous faites pleuvoir sur les montagnes, vous veillez à ce que la terre ait assez d'eau. » Eh bien, nous verrons la semaine prochaine tout le miel que saint Thomas nous donne de ce principe hein, qui veut que les créatures infimes, plus petites, eh bien, soient assistées par des créatures intermédiaires. C'est notre dignité.